Nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Vous attachez à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour Raymond Boudon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour ce troisième volet de Focus. Rappelons rapidement le principe de l'émission. Un invité, en l'occurrence vous, Raymond Boudon, vous nous faites partager quatre moments clés de votre vie. Quelques éléments avant d'entamer cette troisième rencontre. Vous êtes sociologue à la vision libérale, mais au sens social du terme. Vous faites partie des grands professeurs à la renommée internationale. Vous avez également enseigné à Genève, à Chicago, à Florence, Milan, Montréal, Moscou, Santiago, Hong Kong. Bref, vous avez parcouru le monde. Bon, précisons tout de même, vous avez également enseigné à Paris. Et depuis 1990, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, lors de nos précédentes rencontres, vous nous avez fait partager votre année universitaire à New York, puis votre travail sur la dégradation du système éducatif dès la fin des années 60 en France. Et aujourd'hui, vous nous proposez d'évoquer l'installation du relativisme dans les années 80. Un autre sujet avec l'éducation qui vous tient à cœur, je crois.
Tout à fait. Le relativisme, je crois, ça me tient à cœur parce que c'est un mouvement d'idées diffus très important aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une idéologie, un mouvement d'idées diffus. Et le relativisme, c'est quoi en un mot? C'est l'idée qu'il n'y a pas de critères objectifs du vrai, du juste, du légitime, du beau, de ce qui a une valeur artistique ou de ce qui n'en a pas. C'est maintenant que le marxisme est mort, c'est un petit peu devenu depuis la fin des années 60 au niveau de l'Occident, plus exactement, c'est devenu une sorte d'idéologie diffuse dont les gens ne sont pas véritablement conscients. Mais ça a commencé, les intellectuels sont responsables de la diffusion de cette idéologie. Ça a commencé avec la critique américaine de la science, et je pense notamment au philosophe américain Feyerabend, qui a écrit un livre Against Method, contre la méthode, qui a soutenu que l'explication mythologique du monde est aussi valable que l'explication scientifique, et un certain nombre de choses comme ça, dont je suis pas sûr qu'il y ait véritablement cru lui-même. Enfin, il avait un côté un peu fantasque, mais il y a beaucoup de gens qui ont cru, qui se sont engagés dans cette voie.
Au départ, c'était une provocation ou il était
C'était probablement une provocation. C'était un homme, c'était un très bon philosophe et puis en même temps quelqu'un qui avait une très très bonne formation en matière de sciences dures. Alors je crois que c'était de la provocation et une provocation qui s'est faite tout de même sur un fond sociopolitique, c'est-à-dire sur le fond sociopolitique du free speech movement, de la critique de la société. Et alors il y avait une arrière-pensée politique. Il y avait la provocation, mais une arrière-pensée politique qui était de critiquer toutes les institutions, et l'institution qui paraissait la moins critiquable en raison des résultats, c'était la science. Donc on s'en est pris à la science. Je pense que c'est comme ça qu'il faut expliquer les choses. Alors ensuite, ce relativisme...
Alors en quelques mots, le relativisme.
Alors le relativisme, c'est ça. Il y a un slogan de Feyerabend que tout le monde a répété ensuite, « Anything goes ». Tout va bien, tout est bon. Tout est bon, c'est-à-dire on met tout sur le même plan. Il n'y a plus de vrai, de faux, il n'y a plus de juste ou d'injuste, il n'y a plus de légitime ou d'illégitime, il n'y a plus de beau ou de pas beau, tout est bien. Anything goes, tout va bien. Alors c'est ça. Alors c'est un mouvement assez intéressant du point de vue de l'histoire des idées. On n'en a pas encore écrit l'histoire. Alors ça c'est pour des gens de votre âge. Enfin, mais il y aurait de beaux livres à écrire parce que après la science, le relativisme s'est étendu à l'art. Mais les artistes eux-mêmes y ont contribué. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, vous voyez apparaître ce que j'appellerais la théorie déclarative de l'art. C'est-à-dire que, bon, Velázquez, on pense qu'il était tout de même supérieur à la plupart des gens en matière de peinture. Maintenant, non, un artiste, c'est celui qui se déclare artiste. Et c'est le fameux canular de Manzoni, vous savez, l'artiste italien, je ne sais pas si j'ose le dire, dans cette enceinte vénérable. C'est une œuvre d'art. Pourquoi c'est une œuvre d'art? Parce que c'est de moi. Donc, c'est la théorie déclarative de l'art. Enfin, alors, donc l'art est devenu aussi n'importe quoi. Enfin, et puis du côté de ça, c'est pour l'esthétique, mais du côté de l'éthique, ça a été de manière plus modérée, parce que l'éthique tout de même se renverse moins facilement. Mais il y a aussi une tendance à dire, au fond, chacun a le droit de choisir ses valeurs. Point final, et personne ne doit vous dire quelles doivent être vos valeurs. Et il y a même eu, alors très souvent les Américains sont à la pointe du progrès en ce qui concerne les extravagances, il y a même eu un mouvement américain qui s'est développé sur les campus, pas en dehors des campus, mais sur les campus, qui interdisait à l'école de parler des valeurs, parce que parler des valeurs devant des élèves, c'était empiéter sur leur souveraineté individuelle. Donc, alors voilà différentes formes du relativisme.
Et alors donc vous avez adhéré au relativisme ?
Ben je me suis tout de suite opposé. Tout de suite j'ai pensé que c'était faux, que ça n'avait pas du tout ça n'accrochait pas du tout, que le bon sens y résistait beaucoup. Enfin, en matière d'art, je lisais tout à fait récemment une petite anecdote, était assez amusante. Les œuvres maintenant en plastique doivent être des installations, comme vous savez. Et alors à la Tate Gallery, à la Modern Tate, le grand musée londonien, il y a un artiste très célèbre qui a fait une installation. Et dans l'installation en question, il y avait un sac poubelle qui faisait partie de l'installation, donc qui était censé avoir un sens artistique. La femme de ménage de la Tate Gallery pense le matin, elle l'a enlevé.
Pensant bien faire,
naturellement, elle faisait son métier.
Elle avait dénaturé l'œuvre,
à tel point que l'artiste en question lui a fait un procès, a intenté à la Tate Gallery, pas à la femme de ménage, a intenté au musée un procès. Alors peut-être pour se faire un petit peu d'argent, peut-être par conviction, ça l'histoire ne le dit pas. Mais voilà un exemple des manifestations du relativisme en matière d'art. Enfin, et alors je crois que la femme de ménage, c'est elle qui a raison. Parce que son bon sens lui disait, ça peut pas faire partie d'une œuvre d'art.
Et dans les années 80, donc, le relativisme touche vraiment l'Occident?
Oui, c'est installé un petit peu partout. Et alors, je crois qu'il y a beaucoup de confusion en ce relativisme. On peut dire un mot du relativisme en matière de morale, si vous voulez. Parce que là, j'y ai particulièrement travaillé dans un petit livre qui s'appelle, avec des points d'interrogation, déclin des valeurs, déclin de la morale. Eh bien, quand on regarde les enquêtes, les grandes enquêtes, il y a eu de grandes enquêtes internationales sur les croyances morales des gens. On s'aperçoit du tout qu'il n'y a pas du tout ce relativisme, qu'il n'est pas du tout présent dans la tête des gens. C'est-à-dire que lorsqu'on les interroge sur un certain nombre de valeurs, oui, c'est vrai qu'il y a une tendance des gens à vouloir que la morale se réduise au respect d'autrui. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que tout ce qui passe un peu pour un tabou tente à être rejeté. Ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y ait pas de valeur morale. Au contraire, les gens croient beaucoup à un certain nombre de valeurs morales dont ils ont l'impression qu'elles sont des valeurs fortes. Donc là encore, exactement comme la femme de ménage était complètement en opposition avec les valeurs des artistes, là, les gens, tels qu'on peut les observer à travers les enquêtes, quand on les interroge sur leurs valeurs morales, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout relativistes. Ils croient au bien et au mal. Ils n'y croient pas exactement dans cette génération, dans la génération des jeunes gens de 20 ou 30 ans maintenant, de la même façon que dans celle de 50 à 60 ans, mais ils continuent d'y croire. C'est-à-dire que le relativisme existe surtout dans la tête de certains intellectuels ou de certains artistes, mais pas dans la tête des gens.
Et alors le relativisme se veut également, concernant la science, en opposition à la science, se veut une critique de la conception de la science comme moyen de maîtrise. Il s'agit de mettre en cause une technoscience qui réduit la raison à la raison instrumentale.
Oui, c'est comme ça que ça commence, le relativisme. Ça commence avec la critique de la science, et des gens comme Feyerabend, dont nous parlions à un instant, voulaient que la science soit au service de la bonne politique, et pas au service, comme il croyait qu'elle l'était, au service des institutions existantes.
Mais finalement, le relativisme, ça a un écho limité ?
C'est un écho non pas limité, dans la mesure où il influe sur toutes sortes de décisions toutes sortes de décisions politiques, par exemple. Il y a un tas de... je ne veux citer absolument personne, mais il y a un certain nombre de responsables politiques dont on a l'impression qu'ils sont profondément opportunistes et qu'ils le sont parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas de vérité objective ou il n'y a pas de...
Tout est bon à prendre.
Tout est bon à prendre, c'est ça. Donc, une espèce de cynisme, d'opportunisme. Non, le relativisme induit une attitude de cynisme et d'opportunisme qui n'a pas forcément que des conséquences heureuses.
Donc vous, le relativisme, vous êtes totalement en dehors de cette notion de relativisme.
Bah, c'est-à-dire que j'ai passé une bonne partie de mon temps à essayer de le critiquer. J'ai même écrit récemment un livre en anglais, parce que m'était dit que j'allais l'écrire en anglais, qui s'appelle The Poverty of Relativism, c'est-à-dire la misère du relativisme, où j'essaye la thèse fondamentale de ce livre, c'est de dire que les gens ne sont pas du tout relativistes, que les théories relativistes qui sont très présentes, surtout encore une fois dans les élites, en réalité, dans ce qu'on appelle les élites, dans la tête de ceux qu'on qualifie d'élites, sont en contradiction avec le bon sens, avec la réalité. Comme disait-elle, quand on interroge les gens sur les valeurs morales, ils ont des valeurs morales très 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 nettes et très très claires. Lorsqu'on interroge la femme de ménage sur l'art, elle veut bien accepter que l'idée que Michel-Ange soit un grand sculpteur ou un grand peintre, elle a plus de difficultés à accepter certains peintres contemporains. voilà, et même chose, il y a tout de même beaucoup de gens qui ont beaucoup de peine à accepter l'idée que l'explication mythologique du monde soit aussi sérieuse ou aussi solide que l'explication scientifique.
Donc pour vous, les valeurs telles que le bien, le mal, le beau, le laid sont nécessaires pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain.
Bien sûr, je pense qu'elles sont indispensables, elles sont constitutives de la nature humaine. C'est un des grands thèmes de Durkheim, par exemple. C'est également un des grands thèmes de Max Weber. C'est un des grands thèmes des grands sociologues. L'idée qu'il y a un sens des valeurs, un sens profond des valeurs. Ceci dit, le contenu des valeurs va dépendre dans une certaine mesure, mais dans une certaine mesure seulement, du contexte social. C'est-à-dire que si vous exercez un métier donné, vous n'aurez pas les mêmes valeurs que si vous en exercer un autre, bien sûr. Mais il y a des valeurs de base, des catégories de base qui sont constitutives de la nature humaine. C'est un des grands thèmes de Durkheim dans Les formes élémentaires de la vie religieuse, qui est un de ses grands livres, qui lui n'a pas été remis sur le marché complètement. J'ai écrit un article sur la question qui a attiré l'attention, mais c'est un livre extraordinairement difficile d'une part, d'autre part qui est en partie périmé du point de vue de sa documentation. Mais il y a une thèse extrêmement forte, c'est que il y a une transcendance de l'homme, transcendance au sens où l'homme est le seul animal qui croit aux valeurs. Enfin, c'est-à-dire qui ait cette impression qu'il y a des choses dont la justesse ne dépend pas de lui, dont la justesse s'impose à lui. Il parlait de contrainte, ça a été très mal compris, mais il parlait de contrainte pour indiquer ce sentiment que chacun ressent, qu'il y a des valeurs qu'on ne peut pas décider de nous-mêmes, qu'elles sont justes ou qu'elles ne le sont pas. Enfin, elles s'imposent à nous. Enfin, alors c'est ce sentiment que n'importe quel homme femme a ressenti, bien entendu. Eh bien, c'est ce qui, selon Durkheim, fait le propre de l'individu humain. Enfin, vous voyez. Eh bien, tous les sociologues, tous les grands, ont dit ça. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont tous dit que ces valeurs fondamentales étaient constitutives de l'être humain. En même temps, le contenu, dans une certaine mesure, et pas n'importe comment, le contenu de ces valeurs varie. C'est-à-dire que les Grecs anciens, qui étaient des gens très bien, il n'y a aucun doute, considéraient que l'esclavage était une bonne chose. Aristote a écrit en long et en large qu'il ne concevait pas une société sans esclavage. Bon, Puis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est passé qu'il y a eu les sociétés qui se sont mis à fonctionner très agréablement pour les gens qui y vivaient, en se dispensant complètement de l'esclavage. Et alors, ça vous amène à Montesquieu, qui, au XVIIIe siècle, à la fin, dit que l'esclavage est contre nature. Bon, là, on a découvert l'idée que l'esclavage était insupportable dans la mesure où il était contradictoire avec la liberté humaine. Mais en même temps, c'est fascinant, Montesquieu dit « l'esclavage est contre nature ». Mais on ne peut pas l'abolir. Et on ne peut pas l'abolir. Et il avait raison. Il avait raison parce que l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises aurait entraîné un effondrement de l'industrie du sucre.
C'est toute une nation qui s'est construite autour de ça.
Alors c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la Convention a supprimé l'esclavage en 1792. Et ça a été, oui je crois que c'est 92, et ça a été rétabli exactement 8 ou 10 ans après, je crois, en 1802, par le premier consul. Exactement pour les raisons que Montesquieu, avec génie, avait anticipées. C'est-à-dire que, à partir du moment où l'esclavage était supprimé dans les colonies françaises, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, il n'y avait plus que les Anglais qui vendaient leur sucre.
Merci Raymond Boudon. On se retrouve demain.